Prime Vert, le salon rencontre de l'altérécologie, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous accueillons Stéphane Kurkoff de Agir pour l'environnement. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de cette association. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter quelle est cette association et quel est un peu votre travail, pourquoi vous militez ?
Oui, absolument. Donc Agir pour l'environnement, c'est une association qui a été créée il y a 23 ans, dont la vocation, c'est d'orchestrer des campagnes de mobilisation citoyenne. Donc on essaie de mobiliser massivement les citoyens sur un sujet donné durant une période assez précise, de façon à essayer d'obtenir des avancées. Donc on peut agir sur les questions de climat, de santé environnementale, de transport, d'énergie, donc ça peut être assez large. La spécificité, c'est qu'on a renoncé à toute subvention publique de façon à avoir les coudées franches pour faire pression sur les élus ou les décideurs économiques.
Et quel est pour vous l'enjeu de ces temps-ci ? Est-ce que c'est sur le climat ? J'ai vu que vous aviez aussi beaucoup d'affiches sur la 5G. Pour vous, est-ce qu'il y a un enjeu en particulier ou il faut se battre sur tous les fronts ?
Non, faut se battre sur tous les fronts en fonction de son temps disponible. Faut évidemment pas culpabiliser qui que ce soit sur ses insuffisances, ses incohérences ou son incapacité à donner plus que ce qu'il ne peut donner. Après, très honnêtement, nous, on ne hiérarchise pas les luttes. On constate qu'il y a 1000 portes d'entrée pour entrer dans le militantisme. Ça peut être dans la contestation, ça peut être dans la proposition. Et effectivement, nous, on se veut généraliste. Donc, on a des campagnes sur les nanoparticules. On va avoir des campagnes contre les pesticides ou contre la 5G. Et la dernière en date se trouve être une campagne pour un moratoire sur le développement de la 5G.
Pour vous, c'est un vrai danger, cette 5G ?
C'est une vraie incertitude et ce qui est assez étonnant, et c'est la raison pour laquelle on a assigné l'État devant le Conseil d'État qui a mélangé vitesse et précipitation, c'est aujourd'hui un feu roulant d'innovation technologique sans évaluation ni environnementale, ni sanitaire, ni psychosociale, c'est-à-dire qu'on constate assez régulièrement des évolutions qui dépassent, qui prennent de vitesse les pouvoirs publics, et c'est seulement a posteriori qu'on constate les effets sanitaires ou les effets sur l'addiction, notamment au numérique, et il serait souhaitable qu'avant de développer une énième évolution de téléphonie mobile, on réfléchisse à un tant soit peu sur les conséquences de ces innovations.
Et pour vous, quelles sont ces conséquences qu'on peut imaginer ? Il y a la 5G, mais il y a déjà la 4G qui est extrêmement développée. Est-ce que pour vous, il y a déjà des conséquences néfastes qu'on voit au quotidien ?
Les conséquences, elles sont aujourd'hui assez finement étayées scientifiquement. Les adolescents passent aujourd'hui en moyenne 6h45 devant un portable, devant un écran. Donc ça veut bien dire qu'il y a aujourd'hui une influence du numérique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'impact énergétique et climatique. La 5G aujourd'hui va obliger à mettre à la poubelle l'ensemble des portables qui ne sont pas configurés pour être utilisés avec la 5G. Donc ça veut dire plusieurs milliards de portables qui aujourd'hui vont être changés juste parce que les opérateurs ont décidé de changer de gamme de fréquence. Et puis l'impact climatique direct sur l'utilisation de l'électricité avec une augmentation qui est passée de 2,5% à 3,7% d'émissions de gaz à effet de serre en moins de 6 ans. Le numérique aujourd'hui, c'est un impact climatique qui est supérieur à l'aviation. Donc il y a aujourd'hui un vrai enjeu à réfléchir à l'impact du numérique.
Et le but, c'est quoi alors ? C'est peut-être d'imaginer un monde où le numérique est moins prégnant, où il y a plus de place pour des interactions sans écran, pour des interactions peut-être plus directes ?
Clairement, l'enjeu, c'est de réinterroger nos multiples addictions au numérique, la place prise par les réseaux sociaux et par le streaming, et essayer d'envisager une autre façon d'être ensemble. Alors ça, c'est évidemment l'enjeu immédiat et l'enjeu aussi de bien évaluer, avant d'autoriser la 5G, l'impact sur les expositions aux ondes électromagnétiques et l'impact sur les consommations d'électricité. La 5G, certains énergéticiens considèrent qu'elle va avoir un impact sur la surconsommation qui sera voisin de 10 TWh. C'est presque l'équivalent de la production de 2 centrales nucléaires. Donc, c'est vraiment pas négligeable, et aujourd'hui, une fois encore, on constate un gouvernement qui a attribué les fréquences 5G sans avoir évalué tout ça, et on lui demande de temporiser.
Il y a donc ce combat sur la 5G, mais il y a d'autres combats aussi, notamment pour le climat, notamment vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre. le transport est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Est-ce que d'après vous, on va dans le bon sens? On a vu qu'Emmanuel Macron a dit récemment que c'était le combat du siècle. Est-ce que d'après vous, ce gouvernement va dans le bon sens à ce niveau-là?
Clairement, aujourd'hui, le combat du siècle, c'est de remiser de côté les beaux discours et d'entrer enfin dans l'action et dans les décisions cohérentes inscrites dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on constate, c'est une... Alors, pour le coup, c'est pas spécifique à Emmanuel Macron. Hein, ça a commencé avec Jacques Chirac et les grands discours à l'ONU, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et quand on regarde ailleurs, on voit un Emmanuel Macron qui multiplie les grands discours et parallèlement à ça, fin décembre, accorde une déclaration d'utilité public à une nouvelle autoroute à Thonon. Donc on sait très bien qu'à un moment l'impact climatique va être très lié aux infrastructures et on constate des responsables politiques qui continuent à multiplier des infrastructures climaticides et qui ne prennent pas en compte la nécessaire cohérence entre le dire et le faire, entre les discours et les actes. Et malheureusement, on ne peut que constater cette schizophrénie. C'est une duplicité institutionnalisée où on cache l'absence d'action par des grands discours. Et nous, on constate qu'aujourd'hui, les grands discours, ça ne permet pas de lutter efficacement contre le dérèglement climatique.
Mais le problème, c'est que quand on veut lutter contre l'environnement, souvent, on oppose environnement et économie. Est-ce que, d'après vous, l'économie peut être compatible avec l'environnement ou alors c'est que l'économie est forcément incompatible avec l'environnement et il faut peut-être en sortir?
Mais l'économie ne fonctionnera pas dans un environnement qui sera dégradé et une planète stérilisée. Donc, à un moment, il faut remettre les choses à l'endroit. Le Conseil d'État l'a rappelé assez récemment, l'environnement prime sur l'économie. Donc, ça, c'est un prérequis. C'est pas l'idéologie. L'idéologie, c'est de croire que l'économie pourra toujours se développer, y compris dans un monde dévasté. On le sait très bien aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Donc, à un moment, il faut remettre les choses à l'endroit et accepter que nos modes de consommation soient tributaires, limités par la viabilité de la planète.
Il faut peut-être alors limiter nos consommations ?
Clairement, il faut aujourd'hui limiter nos consommations, revisiter tout ce qui a été banalisé et qui a été institutionnalisé avec une surconsommation qui finalement est devenue une norme. Or, on ne vit pas dans l'excès en permanence parce que sinon on dépasse les capacités de charge de la planète.
Est-ce que d'après vous, les petits gestes, comme on dit, suffisent ? Est-ce que c'est déjà un premier pas ou c'est grandement insuffisant de dire j'éteins la lumière quand je sors d'une pièce, j'éteins l'eau quand je me lave les dents ? Est-ce que c'est suffisant ou c'est juste des petits gestes qui cachent les gestes qu'on doit vraiment faire, qui sont beaucoup plus radicaux et beaucoup plus structurels ?
Si on prend les petits gestes comme une fin en soi, à l'évidence, ça ne va pas changer la fin de l'histoire. Par contre, si c'est une première étape dans un engagement, c'est plutôt bien. En fait, c'est à un moment essayer d'attirer des gens qui ne sont pas nés écolos et qui ne pensaient pas écolos éteignez votre robinet. Après, si on en reste là, à l'évidence, ça ne changera pas une fois encore la fin de l'histoire. L'enjeu, c'est à l'instant où quelqu'un commence à s'intéresser à l'écologie, qu'on puisse lui proposer une série d'actions de façon à ce qu'il puisse devenir, entre guillemets, un écolo parfait. Ça n'existe pas, l'écolo parfait, mais malgré tout, qu'on puisse tendre vers quelque chose qui soit de l'ordre de l'engagement de plus en plus étayé, de plus en plus important, et qu'on parte de la protection des abeilles et qu'on arrive sur un militant anti-nucléaire. Que les choses soient suffisamment protéiformes pour que chacun trouve sa place dans un engagement écolo.
Stéphane Kurkov, vous êtes délégué général de Agir pour l'environnement. Avec votre association, vous êtes dans une critique assez forte, on l'entend, de nos politiques actuelles. Est-ce que vous proposez aussi des solutions ? Est-ce que pour vous, il y a des solutions qu'on peut mettre en place ? Et si oui, lesquelles ?
Il y a énormément de solutions et elles sont là et elles sont listées depuis des décennies. Donc on a l'impression de réinventer l'eau chaude à chaque conférence environnementale, à chaque réunion. Les solutions, elles passent par la promotion et le soutien massif à l'agriculture biologique, locale et de saison. Ça passe par le développement des énergies renouvelables et la sobriété énergétique. Ça passe par l'interdiction des publicités de façon à ce qu'on n'institue pas la surconsommation comme une norme, etc., etc. Donc il y a énormément de solutions. Aujourd'hui, quand on constate que le simple fait de demander à interdire les publicités climaticides faisant la promotion des SUV ou du transport aérien low cost, on bute sur des grosses réticences des pouvoirs publics, on constate le chemin à parcourir. Mais globalement, aujourd'hui, il y a une grosse différence avec ces dernières décennies, c'est qu'on a une opinion publique qui est mobilisée et qui est prête à agir. Et là, il faut profiter de ça, il faut s'appuyer sur cette opinion publique.
Pourquoi, d'après vous, l'opinion publique est prête à agir maintenant, à se mobiliser? Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps pour que l'opinion publique se dise « bah oui, vraiment, ça devient une urgence ».
Je pense qu'il y a une multiplication de signaux d'alerte qui passent par le climat, mais la biodiversité. Et donc, les gens sont de plus en plus conscients de faire partie d'un tout et de devoir se mobiliser collectivement pour essayer de maintenir et de préserver autant que faire se peut une planète vivable. Donc ça, c'est un élément qui est relativement nouveau. Les écolos avaient peut-être la mauvaise habitude d'avoir raison tout seul, et aujourd'hui, on constate une mobilisation massive. Je crois que les marches pour le climat drainent de plus en plus de monde, et une fois encore, ça, c'est une chance inouïe par rapport à ces dernières décennies où les écolos prêchaient un peu dans le désert, alors que maintenant, on peut s'appuyer sur des dizaines, centaines de milliers de personnes mobilisées.
Est-ce que l'écologie peut gagner toute seule, ou est-ce que c'est forcément un combat aussi social? On se rappelle de la révolte des Gilets jaunes qui était liée à l'augmentation de la taxe sur le diesel. On dit souvent que l'écologie, c'est forcément contre les pauvres. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'on peut faire une écologie qui soit sociale aussi?
Non, mais à l'instar de la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce qu'on oppose écologie et économie, on ne pourra pas imposer d'en haut une écologie qui n'est pas sociale. Donc à l'évidence, à un moment, si l'écologie doit orchestrer une transition, elle ne pourra pas se faire contre une majorité de la population. Donc il faut réfléchir à cette articulation, en pensant bien qu'à l'évidence, la décroissance, elle va aussi passer par un certain nombre d'interdits. Quand le mouvement des Gilets jaunes est malgré tout né d'une augmentation de la taxe sur les carburants. Donc il faut raisonner en équité sociale, c'est-à-dire que des gens qui habitent loin et qui sont tributaires de leur voiture, on ne peut pas leur dire que la taxe va être la même que celles qui ne sont pas dépendants de leur voiture. Donc il y a une réflexion à avoir sur une équité sociale, y compris sur la fiscalité écolo, mais il va falloir aussi orchestrer cette décélération, y compris de nos addictions multiples et variées, dont celle au pétrole.
Vous avez parlé de décroissance. Pour vous, c'est une solution, la décroissance ?
C'est un prérequis. Une fois encore, ce n'est pas une solution. La décroissance, elle va s'imposer. Soit ça sera imposé, soit ça sera régulé. Soit on la gère, soit on la subit. Donc, à un moment, dans les années qui viennent, à l'évidence, il va falloir qu'on décroît. Donc, une fois encore, soit on la pense et on l'organise, soit elle se fera sur le registre obien, le loup est un loup pour l'homme, et les pauvres la subiront. Donc, il faut l'organiser et il faut la penser.
Plus de liens, moins de biens, alors.
Absolument.
Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Kirchhoff. Je rappelle, vous êtes délégué général de Agir pour l'environnement. Merci bien.
Merci.
C'était le salon Prime Vert à Eurexpo, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.